L'immense décharge de Fresh Kills, fermée depuis 2001, est en cours de réhabilitation. Elle deviendra donc, une fois achevé ce chantier de transformation, un parc récréatif, naturel, ouvert aux habitants de Staten Island et à tous les New-Yorkais. Le Central Park du 21e siècle. Sur le site de l'Alliance, association chargée de la promotion du futur parc, on peut déjà voir les images de ce que deviendra le projet. Une pure nature. Des prairies qu'un vent léger fait ondoyer. Des images de synthèse, au bleu et au vert saturé, sur lesquelles on n'a pas oublié les petites silhouettes en habits légers, joggeurs en plein effort, promeneurs au sourire éclatant, chiens et enfants. Le slogan de l'Alliance annonce la bonne nouvelle. Recycle the land. Reveal the future. Recycler la terre. Révéler l'avenir. Que devient la terre lorsqu'elle est recyclée? Elle redevient elle-même. Dans un reportage consacré à la transformation miraculeuse, l'anthropologue chargé de superviser la réhabilitation explique que New York a été bâti comme toutes les grandes villes sur des déchets, qu'il suffit de creuser un peu pour trouver ses reliques, qu'il en va de même pour Central Park. Simplement, aujourd'hui, on considère qu'il s'agit d'archéologie urbaine, rien de plus. J'apprends aussi qu'à Paris, tout parc présentant quelques reliefs a été même brièvement une décharge. Les carrières des buttes Chaumont, le parc Montsouris, et même le petit labyrinthe du jardin des plantes. La pratique est ancienne, même si elle a de quoi surprendre. Et pourtant, je ne puis m'empêcher de considérer le futur parc de Staten Island comme une incarnation du simulacre. Le lieu artificiel par excellence. Non seulement parce qu'il est constitué des restes de plus de 60 ans de consommation effrénée, mais surtout parce qu'il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Un parc naturel. Comme si la bonne volonté associée à l'intelligence des ingénieurs et des concepteurs pouvait effacer des années de mépris. Mépris de ce territoire naturel, marche saline, marée impropre à tout usage commercial, mais abritant une faune et une flore variées. Mépris pour les habitants de Staten Island, ceux de l'île, les bouseux, à qui on relègue la décharge, la puanteur. Tout ce dont on ne veut pas. La question du devenir de nos ordures ménagères est légère. Dans le sens où aucune vie n'est en jeu, aucune mort. Mais elle est symptomatique de l'aveuglement volontaire dans lequel nous vivons. Si le désastre écologique, associé à notre consommation effrénée, est préoccupant, s'il semble désormais évident qu'aucun geste ne sauvera la planète, sinon un geste révolutionnaire et un changement radical de nos modes de production, ce qui me frappe surtout, c'est l'enclave mentale que nous nous construisons, l'illusion d'une ville propre, d'où disparaissent comme par magie tous les déchets, toutes les salissures. J'ai l'idée, qui ne peut être un idéal, d'une perception pleine, exhaustive, de l'environnement urbain. Notre vision du lieu que nous habitons, où nous vivons, ne connaîtrait de limites ni dans l'espace, ni dans le temps. L'arrondissement voisin serait encore chez nous. Nous pourrions sentir, dans les rues, dans le sol, la présence de ceux qui nous ont précédés. Nous saurions qui transporte nos ordures, où et comment elles finissent, ce qui se passe de l'autre côté de la ligne invisible, là où elles sont traitées. Personne n'a accès à une telle perception saturée, extrême, et personne sans doute ne la supporterait. Seule, parfois, la littérature lève le voile. Les lieux que nous ne voulons pas voir, les séparations mentales que nous construisons entre ici et là-bas, qui peut être juste à côté de nous, sont pléthores. Si le confort que l'on y gagne est évident, comment mesurer ce que l'on y perd ? Ce qui de nous se dessèche et s'atrophie et nous laisse le regard émoussé, perdu dans un semblant de réel qui ne peut pas suffire. Tandis qu'à Staten Island, le chantier du grand parc récréatif naturel avance. Les tonnes de déchets produits chaque jour à New York sont désormais exportées en Caroline du Sud. L'enfance, la toute petite, comme âge encore sans loi où n'existe entre les objets, les matières, les choses, aucune hiérarchie. La feuille, la plume sont ramassées par terre, glissées dans la poche, portées à la bouche. Rien n'est encore sale. Rien n'est propre non plus. Et je revois l'enfant avec ses petits cubes de bois colorés, me donnant l'un puis l'autre, tendant très vite sa main ouverte pour que je les lui rende, et modifiant quelques jours plus tard le jeu à l'improviste, alignant côte à côte tous les cubes au fur et à mesure que je les lui redonne, créant un ordre qui n'existe que pour lui. Et qu'il s'amusera, dès la ligne achevée, à détruire. Mmh. Au commencement était l'idylle. Sur la rive nord-ouest de l'île s'étendent des territoires vierges que les premiers habitants du lieu, indiens de la tribu Lenape, parcourent à pied, en canoë. Marée salin à la flore singulière, opulente. Il ne reste de cette période que les quelques artefacts exposés au sous-sol du musée historique de Staten Island. Fossiles, objets dont plus aucun n'est authentique. Et ce film, diffusé en boucle. J'en garde un souvenir flou, musique supposée, autochtone et reconstitution de ces scènes d'une vie qui brutalement s'achève. Les premiers colons ont traversé la mer. Conquis le territoire des Lenape. Hollandais, ils renomment dans leur langue ce paysage qui désormais leur appartient. Émaillent tous les environs veinés de cours d'eau d'un même mot. Kills, source, qui, en anglais, évoque le massacre. Arthur Kills, la source d'Arthur. Fresh Kills, la source fraîche. Great Kills, la grande source. Ou tuerie. Parmi les joncs résonne encore, au début du siècle passé, le cri distinctif de l'aigrette bleue. On entend le froissement des herbes hautes au passage des castors et autres petits mammifères. Un silence de chant, de clapotis, de craquement. Ici, vivre est possible. La nature s'offre à la main de l'homme, à la cueillette, à la chasse, à la pêche. En ce lieu qui aujourd'hui n'existe plus, on raconte que de vieilles femmes venaient chercher des herbes médicinales. Des Italiens par grappes passaient leur dimanche à l'affût de champignons que seuls savaient dénicher. Et des Juifs en habit noir choisissaient entre toutes les quelques baguettes de saule, les plus belles, les plus souples, qui serviraient au rituel de leur fête des cabanes. Pourtant, un autre destin attend cette terre, impropre à la culture et sur laquelle on ne peut rien bâtir. Si certaines rives de Staten Island restent préservées, Fresh Kills perdra sa pureté, sa fraîcheur, pour devenir le nom d'une honte. Thank you. Parmi les entretiens menés avec celles et ceux dont le destin fut lié à Fresh Kills, je retiens le témoignage de H.B. Petite fille dans les années 1940, dont la maisonnette, comme au milieu de nulle part, s'élevait dans ce paysage encore intact, ample, verdoyant, généreux. Elle parle de la liberté des enfants de l'époque. Elle se rappelle son oncle qui partait le dimanche chasser le rat musqué et la télévision en noir et blanc qu'on transformait en télévision couleur en la recouvrant de plastique transparent bleu, vert, orange. Elle décrit une zone quasi rurale, sans trottoir au bord de la grande route. Les enfants parcourant seuls plusieurs milles à bord des bus municipaux pour aller à l'école. À l'époque, nul ne s'en inquiétait. Il y avait cette insouciance et cette liberté. On allait chez les uns, chez les autres. Et les enfants qu'on imagine à mi-chemin s'attardaient en route dans ce monde à leur mesure, qu'ils pouvaient arpenter à loisir sans être soumis à aucune surveillance. Sa voix douce et posée exhale la nostalgie de cette vie disparue. Elle raconte que la maison lui semblait bien grande, mais qu'elle ne l'était pas. Et que ce ne fut pas un déchirement de devoir la quitter lorsque la ville reprit le terrain. La maison, on peine à l'imaginer, ne fut pas détruite, mais sur des rondins de bois simplement déplacés. Et après ? L'odeur pestilentielle, la destruction de la flore, de la faune, l'asphyxie. Les enfants ont grandi et ceux qui viennent après eux n'auront pas la même vie, ne connaîtront jamais cela. La nature comme terrain de jeu, devant et derrière la maison, zone franche, ouverte, sans danger. C'est la fin de l'idylle. L'installation d'une décharge à Fresh Kills n'est pas seulement nuisance ou malheur écologique. C'est un monde qu'elle détruit. Héros d'une nouvelle ère où l'enfance gâtée, cloîtrée, est assignée à un périmètre de sûreté, dépossédée de son royaume. Il faudrait abandonner toute crispation, se laisser porter sur la pente, sinon facile, du moins naturelle, de l'autopromotion et de la réussite. Je pense à la bravoure et à l'abnégation, à ces corps fermes, sans aspérité, ces corps que l'on acquiert au prix de grands efforts, à cette peau sans accroc qui ne connaît aucun outrage. Je pense aux cheveux brillants, ondulés quand ils sont trop raides et lissés quand ils sont crépus. Je pense aux magnifieurs de boucles, aux peaux visiblement plus jeunes et comme régénérées de l'intérieur, aux rouges repulpants et aux vernis qui subliment nos ongles. Je ne pense ni au visage, ni au sourire, mais à ces problèmes qu'il faut résoudre. Les ongles, les cheveux, la peau. Comme s'il n'y avait personne dedans, personne derrière. Mais on ne sait pas quand commence la déchéance. Seulement, elle commence avant qu'on soit bon à jeter. même dans un monde, le nôtre, où tout ce qui manifeste le moindre défaut, la première marque d'obsolescence, est aussitôt soustrait à notre vue, remplacé par du neuf, il y a toujours des gens pour nous rappeler que nous portons en nous, dès la naissance, le germe du déchet que nous devenons peu à peu. Et ce n'est pas grave, en réalité, mais simplement cruel, et parfois même beau. J'ignore ce qu'il en est dans les autres langues que la mienne, mais le dictionnaire étymologique m'apprend qu'en latin, la langue mère, mundus, monde, et mundus, propre, sont un seul et même mot. Seul ce qui est propre et ordonné fait monde. C'est implacable. Et la seule issue ? Échapper au langage ou parler autrement. En 1896, George E. Waring Jr., colonel durant la guerre civile, devient commissaire au nettoyage des rues de New York. Ardent défenseur de l'idée selon laquelle la vente des déchets pourrait être source de profit, il dirige les équipes sanitaires de la ville comme jadis ses bataillons de soldats. Les éboueurs, organisés en brigades blanches, White Wings, parade, immaculée. C'est la fin du 20e siècle, du 19e siècle, qui voit en France le triomphe de l'hygiénisme et, en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, la naissance des premières décharges sanitaires. Robert Moses, grand planificateur et maître de New York, dont les vues ont tout autant marqué le visage actuel de la ville que celles d'Haussmann ont transformé Paris, s'intéresse lui aussi à la question des déchets qui empoisonne littéralement la gestion de la ville. Il prône et met en œuvre l'assèchement des zones marécageuses par le dépôt en ces mêmes zones d'ordures. En 1948, alors que plusieurs terrains de Staten Island et des autres boroughs de New York ont déjà connu cette transformation, l'État décide, malgré l'opposition forte des citoyens et des environnementalistes, que Freshkills sera, pour 3 ans, décharge. Le temps de l'assécher et d'y construire un beau parc. Et dans quelques années, ce territoire impropre à tout sera enfin utilisable. Trois ans passent, durant lesquels les habitants endurent. La flore délicate et variée n'est plus. C'est le règne des phragmites, plantes envahissantes, agressives et résistantes. Les infinies modulations des chants d'oiseaux cèdent aux cris des mouettes qui trouvent dans la décharge leur festin de chaque jour et tournoient inlassablement au-dessus de cette zone désolée. Aucune fin heureuse ne se profile. 3 ans passent, mais aucune solution de rechange sérieuse n'existe au stockage des déchets produits quotidiennement à New York. Et année après année, la décharge continue de ne pas fermer. Ainsi, elle accueille, traite, agence les ordures et monstrueusement grandit. Les journaux ne reculent devant aucun excès verbal, aucune comparaison pour décrire ce que Fresh Kills devient, ces 4 monts, cet empilage sans fin, jusqu'au ciel. Pyramide de déchets, alpe de poubelles. Pour ma part, j'ai Babel en tête, son arrogance dangereuse, sa folie et son brouhaha de langues innombrables, car ce qui s'entasse là, jour après jour, n'a pas de nom ou souffre d'en avoir trop. Déchets, rebuts, détritus, immondices, ordures, cela prolifère, se multiplie, dégénère. De fait, la production d'ordures est en expansion constante. Les incinérateurs se heurtent à la méfiance populaire. Les unes après les autres, les décharges new-yorkaises arrivent à épuisement de leur capacité. En 1987, ne reste que Fresh Kills qui, à son pic de production, traite 29 000 tonnes d'ordures par jour. La puanteur est si forte que dans le parking du centre commercial, juste en face de la décharge, les gens sortent en courant de leur voiture pour aller faire les courses. Combien de temps cela durera-t-il encore ? Combien de temps faudra-t-il supporter les nuisances, le mépris ? C'est sous le mandat du maire Giuliani que tombera finalement, en 1996, la décision tant attendue. La décharge, The Dump, sera fermée. Une décharge qui ferme. Cesse-t-elle vraiment d'être une décharge ? Une fois scellée, recouverte d'une herbe qui bientôt reverdira chaque printemps, devient-elle un parc ? C'est en tout cas le nom qu'elle est destinée à porter. Fresh Kills Park. Pourtant, H.B., qui garde le souvenir de son enfance champêtre, reste sur la réserve. Je ne sais pas s'ils vont faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire, et pour les générations à venir qui n'ont pas connu la décharge, c'est sans doute une bonne chose. Mais pour moi, ce sera toujours la décharge. Thank you. De nouveau cette nausée qui me saisit en chemin vers le métro. Ce vertige vague qui ne m'empêche pas d'avancer mais ralentit ma démarche. Le cœur au bord des lèvres et qui ne sort jamais. Au cours de la matinée, le malaise se dissipera, se fera oublier, me permettant d'accomplir avec efficacité les différentes tâches qui s'imposent à moi. D'ici là, serrez les dents. C'est le soir seulement que cela me revient. Non, le malaise lui-même, mais le souvenir de la nausée, ce haut le cœur, ce tremblement imperceptible du réel, comme il tangue, comme tout tangue autour de moi. Ce remous détestable. La cause n'en est ni un parfum trop intense, ni une odeur nauséabonde. La rue est propre, fraîche. Les éboueurs viennent de passer à cette heure. Les trottoirs sont parfois encore humides et nets. Rien qui soit susceptible de m'indisposer. Ce qui me tourne le cœur, c'est l'odeur des cadavres qui gisent sous mes pas, dans les profondeurs du sol. Je ne l'explique pas, les os crissent, je les entends et ne le supporte pas. Une personne saine d'esprit s'arrêterait sur le coup de marché, se mettrait à genoux, commencerait à creuser, à vider sous l'asphalte la terre de chacun de ses os enfouis, à déterrer les objets issus d'âges anciens. La rue entière est un seul et unique chantier d'archéologie. La rue, que dis-je ? La ville, toutes les villes, sans parler des campagnes, des lointaines plaines vallonnées, des anciens champs de bataille. Cependant, le malaise ne prend jamais le dessus. Ce qui me submerge à la nuit tombée est terrible et n'a pas de nom. C'est une ombre sans fin dont rien ne saurait me décharger. Fresh Kills n'est pas une métaphore. C'est un épicentre. La grande négativité, le grand vide qui nous submerge, la vacuité, la vanité sans fin de nos existences protégées viennent de Fresh Kills et se propagent comme une onde invisible à l'infini sur le territoire lisse et polissé de la ville normalisée. Tout s'organise soudain et tout fait sens, comme une ligne, comme un fil rouge qui vient ceindre notre cou et serre. L'enfance quadrillée, surprotégée, domestiquée. L'exploitation d'une zone naturelle hybride, instable, impropre à tout. La destruction de toute vie sauvage, du braconnage et des flâneries sans but. La négation de l'ordure comme fragment organique, dynamique et en perpétuelle métamorphose. L'avènement d'un espace de loisirs conforme en attendant le retour des promoteurs et la recréation simulée d'un paysage à l'identique mais sans errance, sans déviance, sans liberté. Cela fait sens et même système. Pourtant, qui sait ? Qui sait quels hôtes le parc finira par accueillir ? Il y a peut-être cette ressource, cet espoir infime, l'imagination, la fantaisie inattendue de quelques-uns que n'intéresse ni l'observation des oiseaux sauvages, ni les promenades en kayak le dimanche en famille, ni les pique-niques entre amis. Qui n'aime pas les pique-niques entre amis ? Avec cette vue imprenable sur Manhattan, qui voudrait manquer ça quand le jour doucement décline, que le chant des oiseaux se fait un peu plus persistant et qu'on ressent loin de tout ce soulagement, cette détente, la juste dose de repos et de plaisir qui nous donnera la force de supporter le reste. Quelques-uns qui ne respectent rien, quelques-uns des malpropres viennent à la nuit tombée, franchissent les clôtures, disparaissent dans les herbes folles, et peu à peu, c'est une lutte occulte, inverse la tendance, s'arrache à l'apathie, sauve le lieu de son enfer aseptisé. Ils se souviennent. Quelques-uns à la nuit venue, quelques cris et quelques joies violentes ou calmes. S'allonger sur cette terre sans un bruit. S'allonger avec lenteur et rester là, le ciel étoilé au-dessus, un infini d'ordures en dessous. Comme encore elle bruisse et grouille, comme encore le sol imperceptiblement remue. Comme encore cela vit dans la montagne monstrueuse.